Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu. Vous le savez, médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture, puisqu'on va parler de cuisine et d'amour, mais séparément. Il y aura le journal des médias de Cyril Lacarrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino et son portrait inattendu. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque ou revoir sur europe1.fr. Notre infomédia, Le Parisien, qui annonce un plan d'économie, de départ de journalistes et de relance du titre. Tout cela sur fond de double crise, le Covid et le distributeur Prestalis. Nous serons avec Stéphane Albouy, le directeur de la rédaction, en direct dans ce studio pour en parler. Nos invités ensuite, la grand reporter Anne Niva, qui revient pour un nouveau numéro de sa collection documentaire « Dans quelle France on vit ?» consacrée aux VIF. Vous savez ce que sont les VIF, V-I-F ? Il y en a tellement que police et gendarmerie ont créé cet acronyme, les violences intrafamiliales. Et puis on va parler d'une famille, mais sans violence cette fois, avec Emmanuelle Béart, la comédienne, qui publie avec sa sœur un disque hommage à leur papa, le chanteur et figure de la chanson française Guy Béart. Il y aura en prime évidemment son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Harry.
Pourquoi Harry ?
Mais il y a écrit ça sur votre t-shirt, je suis Harry.
I'm oui. Harry.
Vous savez ce que c'est ce t-shirt ?
Allez-y, racontez-moi.
C'était le t-shirt que portait le prince Harry quand qu'il faisait la guerre contre les talibans, parce que les talibans avaient promis de le tuer. Et tous les membres de l'armée britannique avaient mis ce t-shirt pour dire « c'est moi Harry, vas-y, tue-moi ».
Avec une petite cible.
Exactement. Mmh. Ce matin, c'est le journal des médias, on peut arrêter de parler de nous-mêmes et de notre style vestimentaire. Cher Bûcheron, qu'avez-vous au sommaire ?
Ce matin, je vous parle du nouveau boss des programmes de France Télé, de Top Chef qui s'achève après une saison carton, d'une légende format XXL et de l'indéboulonnable Père Fouras.
Mais d'abord, les audiences, qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé ?
Succès pour France 3. Hier soir, la série Tandem a dépassé les 4 100 000 téléspectateurs. TF1 est deuxième avec Le Seigneur des Anneaux. Plus de 3 800 000 habitants ont regardé Les Deux Tours, le titre de ce deuxième chapitre. Enfin, France 2 se classe en troisième position. Près de 3 millions de personnes se sont intéressées au pouvoir du corps humain.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec un nouveau directeur des programmes à France Télévisions et c'est une surprise.
Et oui, c'est une surprise. Ce petit nouveau s'appelle Diego Buñuel. Si le nom ne vous dit rien, si vous êtes branché documentaire, son visage vous est sans doute familier. Il a longtemps fait partie de l'équipe des Nouveaux Explorateurs sur Canal+, avant de passer 2 ans chez Netflix, là encore, pour s'occuper de l'offre documentaire de la plateforme de vidéo. Le voilà, désormais directeur des programmes de France Télévisions. Il remplace Nathalie Darry-Grand, partie il y a quelques semaines. Nous sommes en ligne avec Takis Candilis, le numéro 2 de France Télévisions. Bonjour Takis.
Bonjour Cyril Lacarrière.
Et merci de réserver à Culture Média votre première interview après la nomination de Diego Buñuel. Takis, pourquoi un spécialiste des documentaires pour diriger les programmes de France Télé ?
Au-delà d'un spécialiste de documentaires, Hugo a déjà une longue carrière, même s'il est jeune. Il a été journaliste, comme vous l'avez dit. Il a été reporter même de guerre. Il a fait des documentaires, il a été présentateur, vous le disiez, sur Les Nouveaux Explorateurs. Il a travaillé à Canal, où il a fait un travail formidable. Il a développé des documentaires de prime time de grand renom. Et puis enfin, il est passé sur Netflix. Et Netflix, il s'est occupé de l'Europe. Et donc, c'était ces multiples regards qui nous intéressaient d'avoir. C'est-à-dire quelqu'un qui a longuement travaillé sur le terrain, d'une part, dans le linéaire, ce qu'on appelle le linéaire, les chaînes traditionnelles, et aussi, bien sûr, dans le numérique, qui est quand même quelque part, à plus ou moins longue échéance, notre avenir.
Takis, ça compte d'avoir Netflix sur son CV pour intégrer France Télé ?
Ah, pas du tout, pas du tout. Non, non, le problème n'est pas là. Ce qui compte, c'est d'avoir du talent, ce qui compte, c'est d'avoir de l'envie, ce qui compte, c'est d'avoir vraiment, oui, l'envie, c'est quelque chose d'important. Moi, j'ai parlé longuement avec Cyril, d'abord en Zoom, parce qu'on était en confinement. Et puis après, on a réussi à se voir physiquement. Et je dois dire que j'ai été impressionné par sa maturité, par sa carrière, par ce qu'il est.
Takis Candilis et Philippe Vandel, je vous dis bonjour. Vous avez parlé longuement avec Diego, parce que Cyril, il est avec nous. Il a une dernière question
pour vous.
Oui. On avait compris.
Ne réveillez pas nos conversations privées.
Cyril Lacarrière.
Je parlais bien de Diego.
Une dernière question. Vous venez de recruter Laurent Guimier et donc Diego Buñuel. On est à 2 recrutements en l'espace de 48 heures. Et tout ça alors que le mandat de Delphine Ernotte se termine fin août. Comment il faut interpréter ces 2 arrivées dans ce contexte ?
Écoutez, je pense qu'il ne faut pas les interpréter. D'une part, c'est des discussions qui ont été prises là, comme je le dis, il y a longtemps. Deuxièmement, eh ben, on continue à travailler tous les jours. On travaille, on travaillera jusqu'au dernier moment pour que ces chaînes soient puissantes. Vous avez parlé des audiences à l'instant. Et les chiffres sont excellents, on fait du bon travail, on a été proche des Français pendant toute cette période difficile et on le sera jusqu'au moment où on nous dira bah, peut-être c'est pas vous, peut-être c'est vous. En tout cas, il faut dire que la maison ne s'arrête pas et elle continue à travailler et le fait que des gens nous rejoignent montre qu'elle est bien au travail et qu'on sera... le faire jusqu'au bout.
Voilà. Merci Takis Candilis. Je rappelle que vous êtes le directeur général en charge des antennes et des programmes de France Télé.
C'est jour de finale ce soir sur M6. À vos casseroles, place à la finale de Top Chef.
Adrien, David Adrien, après 18 semaines de compétition, qui de ces deux chefs va remporter ce soir la finale du concours de cuisine? Pour les fans, le suspense est total et ils sont nombreux à s'être donné rendez-vous devant cette 11e saison de Top Chef. Avec 3 900 000 téléspectateurs de moyenne, l'émission réalise ses meilleures audiences depuis 7 ans. Et un des faits marquants de cette saison, c'est la présence du chef Paul Perret. Florence Duhaillot, la productrice de Top Chef, nous raconte pourquoi son choix s'est arrêté sur ce chef triplement étoilé dont le restaurant ultraviolet fait fureur à Shanghai.
En fait, son grand truc, c'est l'essentialisme. Donc c'est quoi l'essentialisme? En fait, vous avez très peu dans l'assiette, mais vous avez toutes les saveurs qui sont concentrées. Et en plus, il raconte une histoire. Par exemple, son restaurant ultraviolet, vous êtes complètement immergé dans un univers en 3D. C'est-à-dire que vous mangez, mais vous avez aussi des senteurs dans la pièce et vous avez aussi des projections visuelles sur les murs. Ce qui fait qu'en fait, ces trois sens-là sont totalement stimulés en même temps.
Et ce soir, Paul Perret aura à cœur de faire gagner Adrien qui faisait partie de sa brigade. Florence Duhaillot nous donne quelques clés de ce duel qui s'annonce ce soir en cuisine.
Cette finale, elle est vraiment particulière parce qu'en fait, vous avez Adrien Cachot qui, en fait, est une sorte de génie créatif, une folie, mais qui travaille tout seul, qui travaille que des mecs qui sont, encore une fois, oubliés. Et à côté de ça, vous avez David Gallienne qui est un chef étoilé, qui est un expert, qui est rigoureux et qui a l'habitude, lui, de vraiment de servir des centaines et des centaines de couverts. Il faut que David, en fait, mette un peu de folie dans ses assiettes et il faut que Adrien mette un peu de rigueur dans ses assiettes. Ce qu'on va voir ce soir, c'est vraiment l'affrontement de deux univers culinaires qui n'ont rien à voir. Et on verra à la fin qui gagne.
La finale de Top Chef, c'est ce soir sur M6 à partir de 21h.
Un nouveau dans les kiosques et c'est un nouveau géant.
C'est une légende qui va se faire remarquer dans les kiosques. Ce nouveau trimestriel est effectivement un géant dans son genre. 40 cm de hauteur par 27 cm de large. Légende, c'est le petit nouveau de la galaxie du 1, de America et de Zadig. Et comme pour l'hebdomadaire Le 1, Légende a décidé de se concentrer sur un seul et unique sujet et de le décortiquer. Et pour ce premier numéro, c'est effectivement une légende qui est à l'honneur. Une légende bel et bien vivante puisqu'il s'agit de Zinedine Zidane. Eric Fotorino, le créateur de Légende, nous raconte comment il s'est plongé dans le monde de Zidane sans jamais l'avoir rencontré.
Le fait d'avoir comme ça travaillé, si j'ose dire, sur lui pendant plusieurs semaines, d'avoir lu, d'avoir vu des centaines et des centaines de photos pour garder justement ce qui nous paraissait le plus significatif, les plus fortes, les plus belles aussi, mais surtout les plus fortes. Évidemment, ça donne envie de comprendre ce silence, ça donne envie de comprendre un certain nombre de choix dans sa vie et dans sa vie de sportif. Donc bien sûr, je pense que ça attise la curiosité sur l'homme. C'est une légende parce qu'il dépasse le football, il fait partie de nous. La philosophe Adèle Vendrette dit que cette légende nous tend un miroir. Et donc ce qu'il raconte de nous, bah, c'était cette France qui gagne. C'était cette France qu'on a appelée dans une formule Black Plumber. C'est aussi l'ascension d'un jeune immigré, descendant d'immigrés par le sport.
Et on parlera plus longuement de cette légende puisqu'on recevra Eric Fotorino dans ce studio lundi prochain. On termine ce journal des médias avec le père Fouras qui fait un petit pont à Kylian Mbappé.
Et un geste technique de haut vol pour le vieux sage barbu de France 2. Selon Le Parisien, la chaîne a décidé que Fort Boyard serait prioritaire sur les deux finales que doit jouer le PSG pour clore la saison 2019-2020. Les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue ont généralement lieu le samedi soir. Et bien pas cette année. France 2 ne veut pas se passer de Fort Boyard le samedi soir et les deux matchs se dérouleront donc un vendredi soir, les 24 et 31 juillet. L'année dernière, l'émission d'Olivier Mine avait réalisé sa meilleure audience depuis 11 ans.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
À suivre l'infomédia du jour, on va parler du nouveau projet éditorial d'après-crise du Parisien avec le directeur des rédactions du Parisien, Stéphane Albouy, dans un instant sur Europe 1. 9h.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
C'est le moment qui est venu d'écrire une nouvelle page de son histoire. C'est par ces mots que la direction du journal Le Parisien a annoncé hier un plan de refondation, je cite, avec la volonté d'accélérer sa transformation numérique. Le tout dans un contexte de crise économique, pardon de le répéter. Une dizaine de millions d'économies sont attendues et 30 départs de journalistes prévus. Ce matin, le quotidien Libération titre La presse aux presses et mentionne notamment le plan d'austérité aux Parisiens. Avec une autre inquiétude en interne, la part donnée à l'information locale, véritable ADN comme on dit du journal. Début juin, la rédaction s'alarmait de la suppression des pages départementales, mesure prise à l'origine pour cause de coronavirus, mais maintenue après le déconfinement. Hier, la direction a confirmé remplacer les pages départementales par un seul cahier. Alors, à quoi va ressembler la nouvelle offre éditoriale du Parisien et avec quel modèle économique? Pour en parler, nous sommes avec celui qui va piloter cette refondation éditoriale, le directeur des rédactions du Parisien. Bonjour Stéphane Albouy.
Bonjour.
Merci d'avoir choisi Culture Média ce matin pour vous exprimer. Alors, vous avez eu comme moi la une de Libé, Libération qui ironise dans son article « Journaux, revue de stress ». Son papier démarre par ces mots « Déconfinement, l'emploi repart déjà ». La une du Parisien de mardi ne risque pas de s'appliquer au quotidien racheté par LVMH. Que répondez-vous à ce confraternel confrère ?
Je réponds que c'est sa liberté de ton et qu'on est dans un beau pays puisque tout le monde s'exprime comme il le souhaite. Non, moi je réponds par des actes et par un projet. Enfin, je ne réponds pas à Libération. J'agis par rapport à une situation particulière qui est, avant même la crise du Covid, une période de transformation accélérée sur les usages de nos lecteurs et de nos acheteurs, du papier vers le numérique. Et j'amplifie des choses qu'on a déjà mises en place il y a maintenant quelques mois et qui ont donné des premiers résultats, peut-être qu'on en parlera,
bien sûr,
et qui ont permis de commencer à faire décoller nos abonnements numériques, un secteur dans lequel on avait du retard.
Alors on va évacuer la crise du Covid. À combien vous estimez les pertes liées à ceci pour l'année 2020?
Alors, c'est plusieurs millions, on continue de chiffrer, c'est plusieurs millions, ce sont des pertes assez lourdes. Nous sommes un journal encore très puissant sur le print et dans les ventes en kiosque. On a tous connu la même période, les kiosques étaient fermés, donc les ventes ont été très lourdement impactées.
Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la mise en redressement judiciaire du distributeur de presse Presstalis le 15 mai. Depuis un mois, la distribution de la presse est perturbée en France. Sur les 23 000 marchands de journaux que compte le pays, 1116 ne reçoivent plus ni quotidien ni magazine. 1000 sont partiellement livrés. Quel impact pour vous, pour le Parisien, pour le Parisien aujourd'hui en France?
Bien sûr. Alors nous, le Parisien, heureusement, on a notre propre circuit de diffusion en région parisienne.
Sur l'île de France.
Sur l'île de France et l'Oise. Et là, la difficulté, c'est qu'effectivement, dans le sud de la France, on a encore de gros problèmes de diffusion avec ce conflit. C'est plusieurs milliers d'exemplaires quotidiennement.
Alors, votre nouveau projet part de ce constat. Le modèle économique actuel du journal est trop dépendant de la vente au numéro. Que voulez-vous dire par là?
On veut dire qu'il y a une transformation d'usage, de pratique, de consommation de la presse au niveau planétaire. La France est un pays, même où la vague est arrivée un peu plus tard par rapport aux anglo-saxons. Comme nous sommes un journal qui était très porté par les ventes en kiosque, historiquement, on vend encore des centaines de milliers d'exemplaires, mais beaucoup moins qu'avant. Et donc, il faut qu'on aille conquérir ces lecteurs sur le numérique et qu'ils deviennent des abonnés de nos produits, de nos contenus, de nos articles, de nos enquêtes sur le numérique.
Donc ce n'est pas le modèle gratuit. Vous allez donc mettre le paquet sur le numérique, on l'a compris. Vous avez baptisé votre projet Le Parisien 200 000. 200 000 comme 200 000 abonnés numériques. C'est votre objectif d'ici 5 ans. C'est un chiffre théorique ou est-ce que, l'autre question, est-ce que ce n'est pas trop ambitieux alors qu'aujourd'hui vous comptez seulement 35 000 abonnés?
Oui, on arrive à 36 000. On était à 12 500 début 2019. Le Parisien s'est construit historiquement sur le numérique dans une logique d'audience au début, sans faire payer ses contenus. On a véritablement fait un virage stratégique il y a 2 ans. D'abord des investissements techniques très lourds, il y a 3 ans, en allant chercher la machine, le CMS du Washington Post, l'architecture de notre site. Et puis ensuite, on a développé de nouveaux contenus éditoriaux, des enquêtes, notamment sur le terrain de l'Île-de-France dont on va parler, des papiers plus longs. On a basculé sur du payant et là, en l'espace d'un an et demi, on a quand même multiplié quasiment par 3 le nombre de nos abonnés numériques et on va continuer sur cette cadence et c'est ce qui nous permet d'envisager le cap des 200 000.
Non seulement vous allez progresser sur le nombre d'abonnés, ce que je vous souhaite, et en même temps sur le revenu, puisque le prix va augmenter, vous êtes à 7,99, oui. Vous allez passer à...
On va passer un peu plus cher, autour de 10... Non, on va passer sans doute le cap des 10 euros.
Vous allez passer les 10 euros?
sans doute, où on sera là.
Il n'y a pas une barrière psychologique des 9,99 ?
Oui, ce sera peut-être 9,99. En tout cas, on va très probablement augmenter. On va parler du projet éditorial, je pense.
Bien sûr.
On est en train de réinvestir vraiment sur du journalisme de fond, sur de l'enquête, sur du terrain, sur du reportage et sur des récits au long. Et ces contenus-là, ces articles-là, on le pense, plus de valeur encore que ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, on va augmenter notre offre.
D'accord. On va entrer dans le vif du sujet. Ouais. La nouvelle offre éditoriale qui s'articule en quatre points. On aura du temps. D'abord, la question des éditions départementales. Sujet éminemment sensible, puisque ces éditions départementales ont disparu du journal pendant le confinement. Je l'ai dit par souci d'économie, puis parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Mais elles ne sont pas réapparues après. D'où l'inquiétude des rédactions à l'idée qu'elles puissent disparaître totalement. Hier, vous avez annoncé que les 9 éditions départementales du Parisien allaient être remplacées par un cahier unifié. Ça veut dire quoi ? C'était disparate, c'est unifié, ça disparaît pas. Expliquez-nous ce qu'on va voir.
Alors, d'abord, ce qui est essentiel, c'est que, effectivement, j'ai entendu beaucoup à ce micro d'ailleurs aussi, que les éditions disparaissaient. Je veux redire que nous sommes le seul journal en Ile-de-France à avoir des équipes sur chaque département. Et sur chaque département, encore demain, nous aurons des éditions physiques de 7 à 8 journalistes présentes qui travaillent toute l'année. Donc, on garde ce maillage, on garde cette présence sur le terrain. Ensuite, ce qui va changer, ce qui a changé pendant le Covid et ce qui va changer de manière durable, c'est la présentation de cette information locale. Cette information locale, effectivement, elle va se retrouver dans un cahier central qui sera d'ailleurs qui est baptisé Le Grand Parisien en référence au Grand Paris qui est en train de se construire, avec à l'intérieur des articles qui viennent de l'ensemble des éditions, mais pour chaque département, une ouverture, une une départementalisée avec l'actualité la plus forte du département ce jour-là. Et dans les choses qui vont changer, comme j'insiste un tout petit peu dessus tout de suite, c'est que quand vous allez ouvrir ce cahier, vous allez avoir un événement, un deuxième fait du jour. Vous connaissez le fait du jour du Parisien,
bien
les
sûr.
Pages 2 et 3 que vous ouvrez le matin. Eh bien, à l'intérieur de ce cahier, vous allez retrouver quotidiennement, du lundi au samedi, un deuxième fait du jour construit par les éditions départementales sur l'actualité forte de la région.
Mais il n'y aura pas 10 faits du jour différents.
Non.
Si on les dit, il y aura un fait du jour, ouais, pour l'édition départementale.
Absolument.
Donc il y aura une unification tout en étant différent.
Oui, absolument. Et ensuite, on retrouvera à l'intérieur de ce cahier ce qu'il y a de plus important dans chaque département.
On marque une pause, on parle avec vous des 3 autres axes de travail du Parisien.
Oui, on continue à parler du quotidien Le Parisien et de sa nouvelle offre éditoriale dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Stéphane Elbouy est notre invité, il est le directeur des rédactions du Parisien, Le Parisien. Philippe, qui fait une refonte de ses éditions régionales.
Alors pour qu'on comprenne bien, ça se passait comme ceci autrefois. Si on était dans le 77 ou le 78, on achetait Le Parisien et au milieu il y avait un cahier central avec 4 pages ou 6 pages d'informations départementales dédiées. Ça ne reviendra pas en septembre, mais vous dites qu'il y aura toujours de l'info départementale. Mais comment alors ? Que vont devenir ces 6 pages ? Elles vont s'envoler ?
Alors d'abord, on parle beaucoup de pages. Je rappelle juste que c'est un projet de réorganisation et un projet éditorial qui a vocation à aller chercher des lecteurs et des abonnés numériques.
Oui, on a bien
compris. Donc le papier reste très important, mais quand même, il faut qu'on se projette sur les nouveaux supports. Juste pour répondre à votre question, demain, chaque édition départementale, puisque ça reste en l'état d'une certaine manière, aura l'ouverture, la première page. Chaque département garde sa première page propre à son département.
Sa première page à lui.
À lui. Ensuite, vous ouvrez sur un fait du jour, donc un événement régional, qui va donner beaucoup plus de résonance d'ailleurs à ce que l'on trouve sur le terrain local, puisque souvent on fait des papiers dans chaque édition. Là, dès qu'on va voir un phénomène émerger, quelque chose d'intéressant, on va faire travailler beaucoup plus ces éditions ensemble et produire un deuxième fait du jour. Lequel fait du jour d'ailleurs, s'il est très important et si on pense qu'il est très impactant sur la région, pourra se retrouver propulsé en une du cahier national. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, dans ce cahier, vous retrouverez le meilleur de ce que l'on a dans chaque département. Et ça donnera une vision beaucoup plus large de la région. Et j'insiste juste sur un point, c'est que cette réforme se fait sur la base de premières cellules transversales que nous avons mis en place l'an dernier. Et qui, alors, une cellule enquête sur le territoire de l'Île-de-France qui travaille sur les phénomènes sociétaux, environnementaux, politiques parfois. Et donc, qui nous a donné d'excellents résultats en termes d'audience et d'abonnement sur le numérique. Et c'est cette approche-là de l'information locale, on le voit, qui aujourd'hui trouve ses lecteurs sur le numérique. Donc on amplifie ce phénomène.
Vous le savez qu'évidemment, il y a de l'inquiétude en interne. C'est le journal Les Échos qui rapporte ça. Je les cite. Certains redoutent l'effacement de l'information départementale ou sa réduction à la portion congrue, alors que le maillage étroit des territoires permet de faire régulièrement remonter des informations qui deviennent nationales. Que répondez-vous à ces préoccupations de vos salariés?
Je réponds d'abord que je les entends et que je les comprends, que ces préoccupations dont on parle ne sont pas celles de l'intégralité de la rédaction. Il y a des gens qui déjà se projettent dans le cadre de ce projet. J'insiste sur le point que chaque équipe restera en prise avec son département. Nous gardons des bureaux, un bureau dans chaque département avec 7 à 8 journalistes. Ça n'est pas rien, nous sommes les seuls à avoir ce maillage. Donc le maillage, il est toujours là, on le maintient. Et ensuite, notre ambition, c'est de donner plus de poids, plus d'impact justement à ce que l'on fait remonter comme information du terrain.
Puisque vous parlez d'emploi, vous annoncez le départ de 30 personnes sur 435 journalistes au sein de la rédaction, sans départ contraint, ni plan social, ni licenciement sec. Est-ce que ce sont principalement les journalistes des éditions départementales actuelles qui vont partir?
Non, puisque par ailleurs, on a dans les mesures qui sont ouvertes à la négociation, il y a des mesures de classe d'âge et d'accompagnement dans des formats de pré-retraite, d'une certaine manière, sur la base du volontariat. Je le redis, enfin, ça me semble essentiel à ce micro. Vous voyez passer beaucoup de gens, beaucoup de patrons de médias. On a effectivement, merci de le rappeler, 435 cartes de presse. Dans le cadre de cette refonte, on va proposer à 30 personnes de partir de manière volontaire. Je ne vais pas citer d'autres groupes parce que ce qui se passe aujourd'hui dans notre univers, c'est violent pour tout le monde. Mais il y a plein d'endroits où on ne demande pas l'avis des gens et où les proportions sont très largement supérieures. On a la chance, nous, d'avoir un groupe qui investit dans ce journal, qui croit en son avenir, et ça nous permet de travailler de la sorte.
On va parler du contenu. Vous annoncez la création de nouvelles cellules transverses. Police-justice, vous en avez dit quelques mots. Et portrait, portrait, ça va être quoi? Ça va être comme le portrait de fin dans Libération, la quatrième de couve, qui est parfois la plus grosse impulsion d'achat de Libération.
Alors, c'est pas comme Libération, c'est juste qu'on fait du portrait de manière, je dirais, un petit peu épisodique. Alors, on l'a remis au goût du jour dans notre édition du dimanche. On en fait pas mal dans le Parisien Week-end, qui est notre magazine de fin de semaine. Et lorsque l'on met ces formats-là en ligne, là encore une fois, on voit que l'actualité ou l'information, lorsqu'elle est traitée à travers un visage, un parcours, a tout de suite une audience particulière. Alors, c'est un mode de narration qu'on n'utilise que de temps en temps, et là que l'on veut systématisé. Donc on met en place une cellule avec des journalistes qui ne vont faire que du portrait. Et par ailleurs, dans les modes de fonctionnement nouveaux qu'on met en place, dans ces services-là, ce seront des services où les gens vont pouvoir venir travailler 2 à 3 ans, venir travailler d'une nouvelle façon, s'oxygéner, avoir des nouvelles pratiques, et ensuite repartir dans les services à l'intérieur du journal. La volonté, c'est aussi de créer du mouvement à l'intérieur de la rédaction.
Parce qu'un portrait, c'est un genre très particulier.
Bien sûr.
Souvent les mêmes personnes qui signent les portraits dans l'IB. Y aura des papiers plus longs également.
Oui, ça c'est une tendance assez large. C'est-à-dire que instinctivement, il y a quelques années, c'est la préhistoire, c'était il y a 10 ou 15 ans, quand le numérique est arrivé, on s'est dit il faut être hyper
rapide.
Les gens sont des zappeurs. Le numérique aujourd'hui, c'est l'inverse. Le numérique, c'est de la longueur, de l'approfondissement. Et on lit des sujets et des papiers beaucoup plus longs aujourd'hui sur un smartphone que dans une double page d'un journal. C'est comme ça, c'est nos modes de consommation. Et donc, on doit s'y adapter. Et c'est plutôt sympa pour un journaliste de presse écrite d'avoir plus d'espace pour s'exprimer.
Ouais, dernier point de votre offre éditoriale, vous voulez fédérer des communautés de lecteurs, les femmes et les jeunes, en traitant des nouvelles thématiques. Il y aura quoi?
Oui, absolument. On s'est dit, et ça on l'observe aussi beaucoup, il y a des communautés propres au numérique. Aujourd'hui, le débat autour du féminisme, des féminismes, est quelque chose de très puissant. Il y a beaucoup d'échanges sur le numérique. Et donc, ça, c'est pour nous, c'est une priorité. C'est aussi d'aller chercher des lecteurs plus jeunes. Et donc, on va investir ce secteur avec des journalistes spécialisés qui vont traiter de cette discipline et de manière un peu plus offensive que ce que l'on fait historiquement aux Parisiens.
Il y aura quoi alors par exemple? Moi j'ai lu le féminisme, le bien manger, la science, la tech, l'intime.
Ouais, l'intime.
C'est quoi l'intime?
L'intime, c'est la sexualité, la relation dans le couple. Ce sont des disciplines qui ont été très largement développé dans des grands médias, y compris en France d'ailleurs. Ouais. Il y a des formats qui sont mis en place. Et donc, on a décidé qu'on allait aussi travailler sur ces thématiques.
Voilà, j'aime beaucoup le mot discipline. Merci beaucoup Stéphane Albouli. Je ne sais pas s'il est vraiment impliqué à ça. Directeur des rédactions du Parisien, merci d'avoir choisi Culture Média pour vous exprimer.
Merci à vous.
Notre prochaine invitée est Anne Miva, grand reporter. Elle vient nous parler du nouveau numéro de sa collection documentaire Dans quelle France on vit, diffusée ce soir sur RMC Story. On l'accueille dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Anne Miva.
Bonjour Anne Miva.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, grand reporter, reporter de guerre même. Prix Albert Londres en 2000 pour votre livre Chienne de guerre, une femme reporter en Tchétchénie. Vous publiez, vous montrez ce soir un nouveau numéro de votre collection de documentaires Dans quelle France on vit. Ça sera sur RMC Story à 21h. Mais avant qu'on parle du doc, l'actualité immédiate, les événements de Dijon sur fond de trafic de drogue et de guerre intracommunautaire. Avec cette image saisissante, des centaines de Tchétchènes qui débarquent de toute la France dans une cité pour des expéditions punitives. Vous êtes peut-être l'une des meilleures connaisseuses en France de la communauté tchétchène. Qui sont ces Tchétchènes ?
Bon, alors ça va être compliqué de vous le dire en quelques mots, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, pour moi, je suis très émue parce que c'est une pure coïncidence que je sois invitée pour parler de mon émission de ce soir, qui est diffusée ce soir. C'est pas moi qui ai décidé qu'elle serait diffusée ce soir, et c'est pas moi qui ai décidé que ce jour-là, les Tchétchènes feraient l'actualité. Effectivement, la communauté tchétchène m'est très proche. Tout le début de ma carrière, c'est en Tchétchénie. J'ai failli perdre la vie en Tchétchénie. J'ai vécu avec des Tchétchènes sous les bombes. Et c'est sans doute leurs enfants, vu leur âge, qui étaient par centaines à Dijon ce week-end, et puis qui vivent aussi à Nice, puisqu'on parle de Nice également. Donc c'est une communauté que je connais très bien. Alors moi, je voudrais dire, il y a une chose, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Or, l'amalgame est en train d'être fait, justement entre ce qui s'est passé à Dijon et les disputes qui peuvent avoir lieu entre communautés et surtout entre dealers, à Nice par exemple, hein, puisque là on parle de ce qui s'est passé à Dijon qui a été très impressionnant et je peux le comprendre pour des Français qui ne connaissent pas cette communauté, le fait que d'un coup il y ait plusieurs centaines de personnes d'une même communauté, mais que je le rappelle, qui parlent français. Ces Tchétchènes parlent très bien français et sont très bien intégrés. Ils sont jeunes, ceux qui étaient à Dijon. Ils ont entre 16 et 25 ans. Je rappelle également qu'il y a eu zéro arrestation de Tchétchènes à Dijon. Zéro.
Et ça veut dire quoi, cette info?
Ça veut dire que c'est justement pas du tout les Tchétchènes qui sont arrivés en masse
à
Dijon.
Pardon, parce que moi, je connais pas
ne sont pas
vous.
Des dealers. C'est ça que ça veut dire.
Il y a eu zéro arrestation. Il y a des gens qui ont dit qu'il y a zéro arrestation parce qu'il y avait dû laisser aller.
Non, voilà ce qui s'est passé. Mais essayons d'être bref. Les Tchétchènes est un peuple qui est très fier. Qui, justement, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à le comprendre quand je suis arrivée à vivre chez eux, à comprendre les racines de ce peuple, leur socle. Ils sont très soudés. Et ils sont encore plus soudés quand ils sont dans l'exil. Donc, aujourd'hui, quand il y a l'un des leurs, ce qui est le cas, mais l'enquête policière le dira, ce jeune homme de 16 ans qui, le 10 juin, a été humilié verbalement par d'autres personnes de la communauté maghrébine dans ce bar à chicha de Dijon. Eh bien, en signe symbolique de solidarité, je dis bien en signe symbolique de solidarité, les Tchétchènes sont arrivés en masse, et pas seulement de France, mais également d'Allemagne et de Belgique. Et c'est tout à fait normal pour eux. C'est-à-dire que ça n'est pas une expédition punitive, comme vous l'avez dit. Et ce terme n'est pas approprié. C'est simplement, pour les Tchétchènes, si.
Ah oui.
Pour les Tchétchènes, c'est une façon de faire qui montre symboliquement leur puissance quand ils ont l'impression, à tort ou à raison, et ça n'est pas à moi de dire s'ils ont tort ou raison, quand ils ont l'impression d'une injustice. Or, ils ont eu là l'impression d'une injustice. Donc, ils ont voulu montrer en nombre qu'ils étaient là. Ils le font ça en Russie. Ils le font sans cesse. Ils le font en Allemagne, ils le font en Belgique, ils le font partout où ils habitent. Et même ils le font en Tchétchénie, je l'ai vu ça. Pour des événements, si vous voulez, heureux, par exemple, pour des mariages, pour des anniversaires, c'est toujours en masse. Ils sont comme ça, les Tchétchènes. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à Dijon. Et il y a eu également ils ont discuté avec les policiers. Et il n'y a pas eu de heurts avec les policiers à Dijon. Et il y a autre chose qui est complexe et qui touche véritablement, alors là c'est pas seulement la communauté tchétchène, c'est le problème de la drogue et du trafic de drogue dans des quartiers dévalorisés et qui se sentent totalement abandonnés. Et ça, on a l'expérience à Nice, où il y a une très forte communauté tchétchène. D'ailleurs, Nice est la ville de France dans laquelle il y a le plus de Tchétchènes. Il y a environ 15 000 Tchétchènes à Nice, c'est énorme.
Vous voulez dire qu'ils
j'ai
subissent...
J'ai vu Estrosi quand j'étais en 2014
juste
à Nice.
Sur le trafic de drogue, vous voulez dire qu'ils le subissent ou qu'ils y participent?
Alors, il y a évidemment parmi la communauté tchétchène. Certains tchétchènes qui sont des dealers, ils sont en minorité. Il y a aussi des dealers parmi les Maghrébins, il y a des dealers parmi les Français blancs.
Il y en a partout.
Il y en a partout, voilà. Donc, il faut cesser de dire, moi, j'en suis pas, j'en suis pas. Il y a des dealers parmi les Tchétchènes, mais il y a une énorme majorité de Tchétchènes qui ne sont pas des dealers, mais ils vivent dans ces quartiers défavorisés, dans ces quartiers où ils subissent les conséquences négatives du trafic de drogue. Et là, justement, ils sortent pour pouvoir faire, en fait, et c'est là où ils ont sans doute tort, faire justice à la place des policiers français parce qu'ils estiment que la justice n'est pas faite et que donc ils veulent se débrouiller eux-mêmes et ça donne des batailles rangées entre communautés.
Je vais revenir à votre métier de journaliste à Niva. Est-ce que vous avez été en contact avec des Tchétchènes de la communauté française ?
Mais bien sûr, sans cesse et encore plus depuis ce qui s'est passé.
Et alors, est-ce que vous allez tourner quelque chose ?
C'est compliqué. Moi, je m'intéresse à tous ces sujets.
Parce que moi, je ne suis pas de gêne. J'ai qu'une envie, c'est vous demander un sujet.
Bien sûr, mais en même temps, un sujet sérieux ne peut pas se faire en 5 minutes, Philippe.
Non, mais oui, mais le patron, je viens de dire, si j'étais le patron de chaîne, je vous appelle,
de quelle chaîne
on fait un sujet.
Ne me parlez pas des patrons de chaîne.
Je ne sais pas. Et je dis, Anne, passe un mois, deux mois, trois mois, fais-nous un sujet sur les Tchétchènes en France.
Non, d'abord, moi, je fais ce que j'ai envie de faire et ce n'est pas un patron de chaîne qui va me le demander. Donc, je le ferai si j'ai envie de le faire. Bah, absolument. Je le dis et je le répète, c'est normal. Moi, je ne suis pas salarié d'un groupe de presse. Hein. Je suis libre. Et j'ai été libre depuis le départ. Et c'est peut-être pour ça que j'ai pu faire ce que j'ai fait en Tchétchénie, justement sur le long terme, et essayer de comprendre cette communauté. Donc, la crise. Christian Estrosi, je veux quand même dire quelque chose, a prononcé une phrase sur, et en liant évidemment les Tchétchènes au trafic de drogue, eh bien les associations de Tchétchènes, ça c'était une info depuis hier soir, vont l'attaquer pour diffamation.
Portez plainte contre Christian Estrosi. Une info d'Anne Niva, il y en aura plein d'autres, vous restez avec nous.
Oui, Anne Niva qui est avec nous pour parler du nouveau numéro de sa collection documentaire Dans quelle France on vit, qui est diffusée ce soir sur RMC Story. On va en parler dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Violence familiale, fin du huis clos, c'est le titre de l'épisode diffusé ce soir sur RMC Story dans le cadre de la série documentaire Dans quelle France on vit, des enquêtes réalisées par notre invité Anne Niva, Philippe.
J'ai découvert un terme que la gendarmerie utilise, et la police, les services de justice ont créé un acronyme pour cela, ça s'appelle les VIF, les violences intrafamiliales, pas seulement les féminicides qui sont leur cristallisation la plus noire. Vous dites, Anne Niva, que vous n'avez jamais eu autant de mal à trouver des témoins qui voulaient bien vous parler. Pour quelle raison ? Qu'est-ce que ce sujet a de particulier ?
Bon, alors ce sujet, c'est un sujet où tout le monde est dans le déni. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est un sujet très fort parce que ça touche à ce qui est au plus profond de chacun de nous, c'est-à-dire ce que l'on vit dans notre vie intime, dans notre vie privée. Et par définition, c'est dans le huis clos de chez nous, entre quatre murs. Et entre quatre murs, généralement, pour des relations entre deux personnes, il n'y en a que d'autres personnes.
Oui, ce qui est privé est privé.
Voilà. Donc c'est compliqué, s'il y a des problèmes dans cette relation, ensuite de prouver qui a dit quoi et comment. Et pourtant, c'est ce que doivent faire les policiers quand ils enquêtent. Donc, vous avez parlé du féminicide. Le féminicide, c'est donc quand un homme a tué sa femme, ou ça peut être aussi l'inverse, mais c'est majoritairement dans l'autre sens. C'est-à-dire quand un homme a tué sa femme.
Ou son ex.
Son ex, ou sa compagne. Donc, généralement, moi je veux bien qu'on en parle, il faut parler des féminicides, mais c'est trop tard, la femme, elle est morte.
Ouais.
Elle est morte, donc elle ne peut plus se défendre, et elle devient un chiffre. La 105e, morte pendant l'année 2009, etc. Malheureusement, il y a des tas de femmes qui sont sous emprise de leur mari, de leur compagnon, de leur ex-compagnon, et cette emprise, c'est une emprise, donc avec des violences physiques, et ou sexuelles, et ou psychologiques, dans l'enfer du huis clos familial, ça rejaillit immédiatement sur les enfants. C'est pour ça que j'ai appelé mon émission, grâce à cet acronyme des gendarmes, les violences intrafamiliales, les VIF, donc les violences familiales au sens large. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose entre un homme et sa femme, ça touche les enfants, forcément, quel que soit leur âge.
Ça va même plus loin, parce qu'on parle de vie privée, mais il y a aussi la vie publique. Et beaucoup de victimes ont demandé à avoir le visage masqué, flouté, mais même un éducateur. Je n'avais jamais vu ça.
Mais moi non plus, Philippe.
On va prendre un cas. Elle s'appelle Marie, elle a porté plainte contre son ex après une affaire d'inceste sur sa fille. On croit qu'une fois qu'on en est là, parce qu'elle va devant le juge, on imagine que tout s'arrange. Pas du tout, c'est elle qui raconte.
Quand venait arriver l'audience du juge, j'avais demandé donc avec mon avocat de pouvoir protéger ma fille suite aux révélations qu'elle m'avait faites. Et ouais. Ça m'a été refusé à l'audience. Au jugement qui a été rendu, on m'a dit non, c'est... Et on a accordé au papa un droit de visite élargi, donc du coup je la vois moins que lui. Et aujourd'hui, il arrive aussi quelque chose qui est très très délicat, c'est qu'elle n'en parle plus, très peu. Quand je la questionne, elle me dit je dois pas dire. Je ne dois pas dire maman. Je ne dois pas dire papa, il a dit. Je ne dois pas dire à la police et je ne dois pas dire au psychologue.
Donc là, il y a une démission, un dysfonctionnement total des services police-justice.
Non, mais c'est un enfer. Moi, j'ai fait cette émission pour qu'on se rende compte de l'étendue des dégâts, si je puis dire. Et du fait qu'il faut non seulement que les femmes continue à parler, mais ça c'est que le début, c'est le tout début de s'exprimer. C'est comme le mouvement MeToo, c'est très bien, il faut s'exprimer, mais il faut ensuite autre chose. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'exprimer et qu'on vous écoute, ça c'est déjà le premier problème. Mm-hmm. Mais alors les gendarmes, les policiers font beaucoup d'efforts pour écouter les victimes, ça je le montre dans le document. Ils le font et on peut et on doit le souligner. Ils essayent de comprendre ce que c'est que ce cycle de la violence. C'est-à-dire que déjà, pour la femme, sortir du huis clos, oser sortir en perdant tout, parce que généralement quand elle sort, elle a plus d'argent, elle n'a plus rien du tout. Donc, c'est recommencer, oser recommencer une nouvelle vie. Mais ensuite, il faut effectivement qu'on la croie. Et il faut qu'il y ait une enquête de fait. Il faut que les juges puissent faire leur travail. Il faut que le procureur, j'ai un procureur formidable dans cette émission, le procureur Philippe Astruc, ouais, à Rennes, qui lui dit que c'est une priorité, le déni. Le déni de qui? Le déni de ceux qui sont les auteurs de violences, donc généralement les hommes.
Pour vous donner totalement raison, on voit des mamans qui sont impuissantes pour protéger leur enfant. Il y a un petit garçon qui raconte des choses absolument atroces, on a l'impression qu'ils sont entendus. Vous avez rencontré un juge des enfants, il s'appelle Édouard Durand. Et vous lui posez une question qu'on pose depuis les années 80, voire même depuis les années 50. Et je ne pensais pas que ce serait une question qui serait toujours d'actualité en 2020. Comment est entendue la parole des femmes par rapport à celle de l'homme?
Est-ce qu'on peut dire qu'en France, la parole de la femme victime n'est pas encore suffisamment entendue?
C'est vrai que nous avons encore des difficultés à mesurer l'extrême gravité des violences conjugales et la très grande dangerosité des violents conjugaux. Parce que c'est à l'intérieur de la maison et qu'au bureau, on le trouve sympathique. Au tribunal, il est calme. Alors que la dame, elle paraît plus énervée,
plus
elle a peur. Et
c'est souvent ce qu'on dit d'une femme, oui.
Sa parole, à lui, on la prend en compte.
C'est complètement dingue.
Mais c'est très fort. C'est extraordinaire que ce juge le dise, le répète. Il faudrait que tout le monde l'entende. Il faudrait que tous les juges soient comme lui. Mais il est dans la minorité.
Ouais.
Mais ça veut pas dire que tout va très mal en France. Enfin bon, même si c'est un peu compliqué la France. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse des efforts pour essayer de mettre en avant ceux qui ont ce rôle-là, ceux qui sont à l'écoute, sans que tout de suite ils soient fustigés, ils soient critiqués, etc., etc.
On a beaucoup parlé de Tchétchénie. J'ai peu de temps. Je vais juste donner cette information. Vous avez aussi rencontré des hommes qui ont commis des violences
sur
leurs femmes.
Des auteurs de violences,
et
oui.
Là, on voit le déni total. C'est juste complètement saisissant. Regardez ça, c'est ce soir. Ça s'appelle « Dans quel front on vit ?» C'est sur RMC Story à 21h. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Anne Philippe.
Eva. Culture Média continue évidemment dans quelques instants le journal de la culture avec notre invité ensuite, Emmanuel Béart, pas pour un film ni pour une pièce de théâtre, mais pour un album. Ça s'appelle « De Béart à Béart » avec un S à la fin. Hommage à son papa Guy Béart avec 20 pointures de la chanson. Ils ne seront pas tous dans le studio. Il y aura évidemment son portrait inattendu par Hélène Manard. Et puis dans les indispensables, direction Nice, avec ses spécialités culinaires pour des recettes d'été, Marion Sauveur nous dira comment cuisiner comme un ou comme une puriste. Et puis un livre sur une histoire d'amour oubliée, l'idylle entre l'écrivain Joseph Kessel et une star de la chanson, Lord d'Autriche, l'a lu pour nous. Mais d'abord, le journal de la culture, juste après ça.